Bonjour à toutes et à tous, à chacun, à chacune. Christophe Jubien pour vous accueillir sur La Route Inconnue, votre magazine bimensuel dédié à la poésie vivante, celle qui s'écrit, se publie et se lit aujourd'hui, car la poésie n'est pas morte, non. Elle respire encore, elle a du souffle, du cran, du muscle et un cœur gros comme une maison. La Route Inconnue, je vous le rappelle, est réalisée dans les studios de Radio Grand Ciel à Chartres en partenariat avec la revue de poésie trimestrielle Décharge, dont je ne saurais trop vous conseiller la lecture, si vous souhaitez vous faire une idée à peu près exacte des productions poétiques de langue française contemporaine. En seconde partie d'émission, eh bien, vous pourrez entendre les chroniques de Jacques Morin, justement directeur de publication de la revue Décharge, Louis Dubeau, poète, naguère éditeur à l'enseigne mythique du Dé Bleu, et dont vous retrouverez les chroniques et billets d'humeur tous les trimestres en vous abonnant à la revue Décharge. Et puis en fin d'émission, le petit clin d'œil, plein de malice et d'intelligence de Jean-Claude Touzeil. En attendant, nous avons rendez-vous avec une poète qui, croyez-moi, a un bel avenir devant elle et un présent non moins séduisant d'ailleurs, puisqu'elle vient de faire paraître son troisième livre autour des bouches morsures, sa joie aux éditions Henry. Laurence Lépine, bonjour.
Bonjour.
Je suis très heureux de vous recevoir pour la deuxième fois dans notre petite cabane de mots. Les auditeurs n'ont sans doute pas oublié votre dernier passage sur nos ondes à l'occasion de la parution de votre précédent livre « Je porte la merveille ». Quel titre ? « Je porte la merveille » qui avait obtenu le prix de poésie de David du Touquet en 2016. Alors, dans ce deuxième opus, eh bien, c'est bien votre voix qu'on entend, votre voix, votre souffle, marié à celui de Rose Auslander, à qui ce livre est dédié. Et ma première question est la suivante. Pourquoi ce compagnonnage avec une poète que je ne connaissais pas, que vous m'avez fait connaître, et je suis allé voir sur Internet, j'ai découvert des textes formidables. Quelle est votre proximité avec Rose Auslander?
Alors, bah, c'est bien que vous ayez découvert Rose Auslander, parce que c'est un peu peut-être pour cela aussi que j'ai écrit ce livre. Je l'ai découverte moi-même grâce à mon compagnon qui m'avait offert il y a quelques années un de ses livres qui s'appelle « Je compte les étoiles de mes mots ». J'avais trouvé ce titre très beau et j'ai rencontré Rose comme ça. Et pour Cercle, c'est un livre que j'avais commandé à la librairie qui s'était un peu perdu dans les rayonnages et qui est arrivé le 24 décembre, comme dans un conte. Donc j'ai eu envie de rendre hommage particulièrement à Rose à travers ce recueil qui s'appelle Cercle. Et il se trouvait que je devais prendre le train, que j'étais avec ce recueil avec moi et que j'ai décidé pendant le voyage d'imaginer que Rose était à côté de moi et à chaque poème de répondre par un de mes petits poèmes à moi.
Ouais. Voilà. J'observe que vous ne dites pas Rose Auslander, vous dites Rose, comme si c'était une vieille copine de lycée, quoi.
C'est exactement ça, comme si c'était une vieille copine de lycée. Malheureusement, j'ai bien sûr, il était impossible hein, que je sois une copine de Rose, puisque Rose fréquentait des gens et des poètes autrement plus importants que moi, notamment Paul Celan, bien sûr.
Oui. Paul Celan, qui je crois a compté hein, dans votre genèse.
Oui, bien sûr.
Vous l'aviez dit,
bien
je
sûr. Paul Celan, c'est avec Paul Celan que j'ai découvert un peu la poésie de langue allemande. Et puis, petit à petit, toutes ces femmes qui ont gravité autour de lui, dont Rose Auslander, dont on parle aujourd'hui.
Ouais.
Et ce que j'aime aussi chez Rose, justement, encore une fois, je dis son prénom seulement, c'est que c'est une dame qui a vécu très vieille. Et je trouve que pour les poètes, c'est quelque chose qui est important de souligner parce que c'est pas si fréquent finalement.
Oui. Elle aurait pu mourir à bien des reprises, hein, puisque c'est une poète d'origine juive qui a traversé toute cette sombre période alors qu'elle était en plein cœur de l'Europe et miraculeusement presque, elle y a échappé finalement.
Ouais. C'est ça. Ouais. C'est ça. J'aime Rose Auslander aussi pour cette phrase qui est d'ailleurs en quatrième de couverture de Cercle. Et elle dit « Mon verbe est né du désespoir ». Et je crois que c'est cette force, ce besoin de lutter contre cette désespérance qui l'a faite peut-être vivre longtemps.
Ouais. Alors le recueil est dédié à Rose, mais aussi aux nouveaux arrivants.
Oui, aux nouveaux arrivants, parce que justement, voilà, c'est la tragédie des migrants, oui. Leur sort quotidien. Rose Auslander, elle aussi, a dû émigrer à une certaine période de sa vie. Aujourd'hui arrivent beaucoup de gens qui viennent se réfugier en France, comme elle s'est sans doute réfugiée à une certaine époque à New York, enfin aux États-Unis en tout cas. Et puis ce cercle, qui est le titre du livre aussi, me faisait penser à cette histoire qui malheureusement recommence peut-être. Ouais. Voilà, quelque chose de grave et d'inquiétant.
Ce recueil est écrit à la deuxième personne du singulier. Alors, oui. ce « tu », est-ce que c'est Rose ? Est-ce que c'est un peu vous ? Qui est-ce ?
Je pense que ce « tu », c'est moi, mais c'est plutôt celle qui écrit, en fait.
Oui.
C'est un dialogue entre celle qui vit le quotidien, ouais, et puis celle qui écrit, peut-être pas forcément la même personne, je ne sais pas. Mais je crois aussi que j'écris peut-être justement pour, comme ce recueil par lequel j'ai découvert Rose, qui s'appelle « Je compte les étoiles de mes mots », pour savoir combien d'étoiles compte chaque mot que j'écris.
Mmh.
Et au final, qu'est-ce que ces étoiles veulent dire ?
Ouais. Oui, c'est un recueil, c'est une poésie d'interrogation. On sent que vous sondez justement celle qui écrit, ou alors c'est peut-être celle qui écrit qui sonde celle de la vie quotidienne.
Oui.
C'est comme si vous cherchiez un peu, je trouve, à préciser vos contours grâce à la poésie, non ?
Oui, c'est ça. J'ai l'impression que ma poésie naît d'une grande angoisse quotidienne, et puis aussi d'une certaine... Je suis démunie devant le quotidien. Je voudrais avoir la force de certaines saintes que j'admire. Voilà. Mais bon, je trouve un peu d'apaisement peut-être et dans l'écriture.
Ouais. D'apaisement, mais n'empêche que vous fouillez loin. Oui, bon, il existe ce qu'on appelle la psychologie des profondeurs. Moi, il me semble que c'est un peu une poésie des profondeurs que vous écrivez, une poésie qui scrute les abîmes. Ça laisse des traces, je veux dire, ça aussi. C'est-à-dire que je pense toujours à Rony Guicadou qui disait « La poésie sera toujours l'éloge de la vie dangereuse ». Est-ce que c'est aussi une pratique qui nous révèle ou qui vous révèle des choses de vous-même que peut-être qui vous étonnent ou qui vous surprennent, qui vous inquiètent, qui vous...
À travers la poésie.
À travers la pratique, oui, de la poésie.
Oui, à travers la pratique de la poésie. Je crois que finalement, je comprends le mieux ce que j'ai écrit des mois et peut-être des fois des années plus tard. Parce que lorsque je l'écris, c'est finalement quelquefois le stylo qui écrit.
Mmh.
Et je me laisse guider par lui. Et puis, quelquefois, plus tard, je m'aperçois que ce que j'ai écrit à telle époque, eh bien, ça vient confirmer ce que je suis en train de penser aujourd'hui.
Ouais.
Je ne sais pas si c'est très clair.
Si, je comprends. Je pense que nos auditeurs comprendront aussi. Alors, je trouve qu'il n'y a pas de ponctuation dans ce livre, dont la lecture est rythmée plutôt par les blancs, les interlignes, etc. Et les images sont vraiment très, très belles, soigneusement choisies, jamais gratuites. J'aime beaucoup, d'ailleurs, les premiers mots. « Anneau de charité, le feu t'encercle ». C'est superbe. « Anneau de charité, le feu t'encercle ».
Oui.
Ce feu, c'est quoi ?
Le feu, ben justement, je crois que c'est... Quand je l'ai écrit, je pensais que c'était le feu de la guerre.
Ouais.
Je le crois toujours, mais je pense aussi que c'est peut-être le feu, une sorte de feu divin auquel je suis toujours attachée et que j'appelle toujours. voilà, que j'appelle toujours. Le feu, c'est aussi.
L'esprit, d'une certaine manière.
Pardon, l'esprit, oui.
Ouais. Je vais citer, je me permets de citer, alors je lirai vos poèmes évidemment dans la seconde partie de l'émission. J'ai quand même cité pour nos auditeurs quelques, quelques très belles images. Il y a le trèfle à quatre feuilles du cœur, le terrible travail d'égarement, la course au couteau dans les ruines, magnifique. Le couteau a déjà tranché la montagne, ramassé le ventre de l'orage avec le foin séché. Il y a une très grande variété, une très grande richesse d'expressions dans votre livre. Et ces expressions, elles naissent comment ? C'est vraiment là, du coup, le stylo, comme ça ?
Oui, c'est le stylo.
C'est le stylo. Je vous envie. Vous allez me donner votre stylo.
Non, mais ça peut paraître stupide ou mensonger, mais c'est quand la main décide elle-même du geste, finalement, que c'est le plus vrai. Voilà. Après, il reste, même pour moi, parfois, à découvrir réellement ce qui a été écrit à ce moment-là. Oui.
Mais il faut coudre aussi ces images l'une à l'autre. Oui. Ça, c'est un autre travail ?
Oui, ça c'est un autre travail de coudre et c'est pas le plus facile.
C'est pas le plus facile, oui.
Non, c'est pas le plus facile. Après, effectivement, il faut essayer de donner un rythme, de donner peut-être une logique à tout ça.
Oui. C'est finalement un va-et-vient permanent entre l'inconscient et le conscient.
Oui, c'est ça. C'est ça. C'est des images. Qui viennent, c'est vrai, des profondeurs de quelque chose que je connais pas trop, et j'essaie de les apporter jusqu'à une lumière, j'ai envie de dire en passant par quelque chose de liquide qui serait comme la surface d'un lac, ou c'est ce que j'imagine en tout cas.
Oui. Je vous pose une question. Max Jacob avait dit un jour à René Guy Cadou, encore Cadou, de continuer d'écrire comme vous le faites et vous serez heureux par la poésie. Est-ce que c'est votre cas ? Est-ce que vous êtes un tant soit peu heureuse par la poésie ? Quelle question !
Oui, je suis heureuse par la poésie, oui. Mais je voudrais aussi arriver à m'occuper davantage des gens qui ont vraiment besoin d'aide. Et je crois que pour l'instant, la poésie est la marche un peu en dessous du fait de s'occuper des gens qui ont besoin d'aide.
Est-ce que vous n'apportez pas un soin quelque part à vos lecteurs ?
J'espère, mais je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, la plupart des gens ont besoin de quelque chose de beaucoup plus simple. Quelquefois, les gens ont juste besoin...
D'un geste
même, j'ai parfois l'impression même qu'un sourire ne suffit plus, qu'il faut s'engager autrement, et ça, c'est une autre histoire.
Oui, on n'avait pas parlé de ça quand...
Non.
Et qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau, alors ?
De nouveau, je crois que c'est le monde qui va de plus en plus mal, pardon de, de dire une phrase aussi grave, et puis peut-être le fait de vieillir, de voir que le temps passe très vite et que l'on voudrait peut-être prendre la vie à pleine main et pas simplement la tenir au bout d'un stylo.
Vous envisagez alors autre chose pour l'avenir ? J'allais vous dire, parce que je crois savoir qu'il y a d'autres livres quand même en cours de...
Alors, il y a un livre qui est consacré... C'est un livre que j'ai écrit en lisant les poèmes de Ingeborg Bachmann, voilà, qui s'appellera « Le jour nouveau à naître ». Et ce dont je parle, non, je n'ai aucun projet personnel, si ce n'est peut-être d'être encore plus attentive à tout ce qui se passe dans ma rue, par exemple.
Je vous pose une question parce que tout à l'heure, et ça, j'ai l'impression que c'est nouveau aussi, mais peut-être que je me trompe complètement. Mais tout à l'heure, vous avez parlé de ce feu qui est la guerre, mais qui peut-être est le divin. Vous interrogez aussi sur. Sur le sens, finalement, de la vie, de la création de...
Oui, mais bien sûr, depuis toujours.
Depuis toujours.
Depuis toujours, je m'interroge là-dessus. Et puis,
La vie vous semble avoir un sens?
Oui, je pense que la vie a un sens. Tout le problème est de la découvrir. Okay. Ça, j'en suis sûre.
Très bien, merci beaucoup, Laurence. On va écouter un peu de musique et puis après, je lirai donc un assez long extrait de autour des bouches, morsures, sa joie, merci. Votre très très beau livre publié aux éditions Henri. Merci beaucoup, Laurence.
Merci.
Autour des bouches morsures, sa joie, de Laurence Lépine, publié aux éditions Henri Collection La Main des Poètes. Anneau de charité, le feu t'encercle, te souffle. Étrange créature, balle de jeu des justes, tu cours, appelles. À l'impossible, le vent élance jusqu'à ton propre front. Ton ciel est blanc, ton cou couve le vent et son contraire, dépaisse l'idole du néant. L'étoffe de pur lambeau te saisit par la main. Il est temps pour toi d'écrire encore. Le temps de l'exil s'est levé comme glace. La forge de lumière a jailli hors du front. Ils sont venus, plus étincelants les uns que les autres, frappés à la porte de l'émotion. Un terrain de jeu se construit hors des falaises. Un amour grandit et ne se voit pas. Là où sont s'affairent encore à croire en leur miracle, l'âme frontière en elle du souffle, tu réponds à qui frappe aux larmes de la peau, entre, toi et moi, dans cette salle d'attente. Comme l'on regarde par-delà le soin, celui qui le prodigue, arme jetée au loin, pour que rien ne puisse venir d'autre qu'abondance. Tu irradies ce que d'autres crient à l'envers, secouent dans les décombres. Il aura fallu défier l'absence tout entière pour parvenir au mot juste, l'allonger comme pâte de grain sur terre encore meuble. Regardez dans le bec de l'oiseau, germer le miroir déformant de son propre courage. À l'aube, aube de nuit s'ajoute, temps passé, fini infini à répartir. Au-dessus de nos têtes tremble le trèfle à quatre feuilles du cœur. Je sais que tu te souviens de moi, te nourris de ma présence, parce que autre que toi rime avec espérance. Mille grâces s'annoncent autour de ton prénom, font et défont la part de celle qui toujours reste à faire. M'est étrangère, proche, j'apprends. Tu habites une interdiction à aller plus haut. Un monde tient l'autre dans son embarcation, la pousse au-devant de toi, te hèle, s'inquiète, te réclame. Trouver dans le refuge mailles à coudre, ramener l'éternel monument de sagesse au simple dire, laisser aux arbres le soin de refléter l'infranchissable. Cercle, crescent, cercle, 23 poèmes de toi, rose. Infime la blessure, la course au couteau dans les ruines, si tu entres et t'assois près du feu, dans le wagon de glace, entre avec toi tous ceux que tu cherches, anneaux de cendre te recueillent. Vers l'autre monde s'amarrent les heures, avec, dans le miroir, le souvenir heureux des cheveux avalés par la neige. La conduite à suivre ici est recommencer. Ô mon étrangère, ma cosmique, agrippe-toi, montagne, à ce qu'il te reste de raison. Le songe te démange, tu t'élargis, pensant qu'une autre, un jour, viendra rassembler ce qui de toi, d'elle, perdure. Ta tête s'abaisse, tes bras se dénouent, arrachés au noble silence intérieur. La vie redevient larve, parce que larve abrite encore un émoi. Crazen, cercle, crazen, tu me prends dans ton souffle. Tenir contre soi, le désir, le fer argile strie, du terrible travail d'égarement, une femme aux mains d'os te soulève, s'approche de toi, t'enfante. Bien avant que tout sur toi ne soit dit, bien avant, miracle, de revenu au monde, éternelle approche se fera, petit pas dans grand, terre mâchée, jusqu'à peau d'aile. À chacun de tes poèmes, je réponds. Courir vers toi, pendant qu'autre chose te ramène, liquide à la ressemblance de la chair, envergure fermée de la révolte, tu ressurgis, immense, au début de ta nuit. Parcelles de petits enfants emplissent la fosse, là où feu, os, perte de lumière règne. Yémen, Syrie, Yémen, rue voisine, assassine. Cercle, crescent, cercle, dans l'immédiateté de la lecture, la rupture avec. Rien d'autre que part d'égal à égal. Quantité de soi multipliée par dire de l'autre. Arbre déjà mûr, court à travers la maison. Feu sort de terre et t'absorbe. Impossible de monter dans le chariot de cendre. La porte est fermée. Te reste à contenir tes doutes. Monter s'avère être l'éternel sacrilège que tu rêves d'entreprendre. Le sol. Tendresse d'épaules à coudes, mains, ramasser le reste du monde en un sac, l'éveiller de la mort. Ne cesse jamais le peuple des tourments. La main au mirage de feu ramène la ronce en son étuve. Chanson se fait là où tu parcours encore ton dénuement. De mon corps je t'écris, Crescent, cercle, Crescent, rose. S'enferrer dans le courage, aller là où soleil se frotte les tempes, s'ébouvoir du peu de sang blanc avec le sans visage, franchir. Créature terrestre, s'étonne, paix sur sang ramenée, voix, dicte, se souvient, renouvelle, entonne la perte infatigable de ses os. Depuis mon corps, ma terre, avec cette vie à charge, cette vie à réconforter, comme si vents et marées ne possédaient plus qu'une algue. Tu réinventes ton attachement au monde, sa bascule de ciel. Prends soin de toi, le temps qui se défait accourt à ta rencontre, acier brûlant aux manches. Renoue, petit garçon, reviens, autre visage, monde te reprend. Mon silence. Sur l'éclair de ton bras naît un monde d'incandescence, terre des semblants oubliés, allées et venues sur sol de neige, trace, étoile du matin, ce qui t'ordonne, te mande, vérité, approche. Noir et blanc, voici ce que sphère pose autour de l'œil. Le reste, demain jusqu'à salive, oublie le poème. Lorsque tu ouvres le livre, un arc de dire fraternel consolide ton tir. Entre toi et moi, lui, pénombre, lueur mêlée, cercle, crescent, cercle. Voilà, c'était quelques extraits du livre de Laurence Lépine, Autour des bouches morsures, sa joie, publié aux éditions Henri Collection, La main au poète. Je vous propose d'écouter un peu de musique et de retrouver ensuite Jacques Morin, directeur de publication de la Revue des Charges, pour sa revue des revues audio mensuelles. C'est bien beau, hein, Bach, les variations Goldberg au piano. Je vous propose à présent de retrouver Jacques Morin, Jacques Mau, directeur de publication de la Revue des Charges, pour sa revue des revues mensuelles.
Revue du mois, audio numéro 52, cahier des passerelles, numéro 21 et 28. C'est une revue à la limite du recueil et de la collection. Le principe est simple. Un auteur est sollicité pour écrire une dizaine de textes, lesquels seront illustrés en vis-à-vis par autant de dessins d'un artiste. En ce sens, il s'agit d'un cahier à deux mains et la passerelle est évidente entre poète et plasticien. C'est Bruno Berchou, chroniqueur intermittent à Décharge, qui m'envoie ces deux cahiers illustrés pour le premier par Delphine Reff et Jean-Cyril Étourneau pour le second. Dans les deux cas, les illustrations collent chaque fois d'assez près au texte. Abri de fortune, numéro 21, joue sur le sens des mots. Il y a ce que l'on entend et ce que l'on comprend. La distance entre sens propre et sens figuré. Les expressions toutes faites que l'on prend au pied de la lettre. Toute l'ambiguïté des images qui font le lit de la poésie. Ainsi, l'eau de vie, ou le mur du son. Qu'est-ce que cela peut vouloir dire quand on est enfant, tant qu'on n'a pas goûté l'une ou entendu l'autre? Ou un enfant de la balle, car dire le mot balle, déjà, c'est lancer devant soi une poche de vent. Et cette image aussi, une boussole pour épauler les méridiens. Pour supprimer les châteaux, numéro 28, joue de même sur le sens de mots, mais le jeu d'esprit se situe sur la prolongation d'un mot par son complément de nom et la distance qui se fait entre les deux. Ainsi, entre fruits et fruits de mer, ou entre noix et noix de coco, pour ne citer que deux exemples. Lorsque Bruno Berchou lance son texte par « J'ai un truc » qui permet, grâce à la magie des mots, de passer de l'un à l'autre. Le mot est considéré comme un dé, et l'auteur sait le faire rouler sur le tapis de la page avec amusement et douceur. 5 euros le cahier, 3 rue des Fouasses, 63-170 Aubière. L'adresse mail, les.passerelles@laposte.net. À la prochaine fois.
Vous retrouverez Jacques Morin, Jacques Mau, dans 4 semaines. Mais nous allons rester dans l'ambiance des charges. Car dans le dernier numéro, le numéro 179 de cette auguste revue trimestrielle de poésie, j'ai découvert des textes, je crois, inédits de Christian Bachelin, qui nous a quittés il y a quelques années. Des textes qui m'ont vraiment, vraiment beaucoup plu. Il n'y a rien d'étonnant à cela. Christian Bachelin, c'est un grand auteur. Ces textes sont rassemblés sous le titre « Contes des forêts closes » et je vous propose de vous en lire à présent quelques-uns. Tout d'abord, ce texte intitulé « Enfance en Picardie ». Un jour, le jeune Gaspard, allongé dans l'herbe au pied du noyer, ombrageant le bout du jardin de son père, fit un rêve aérien autant que sépulcral. Il se rêva donc enfermé dans une noix qui tombait sans fin vers le fond d'un puits reflétant le ricanement d'une vieille femme sans dents. Il pensa simplement que ce n'était là rien de plus que les rides de l'eau sous l'effleurement des libellules. Ensuite, il songea que pourtant les libellules ne sont jamais souterraines et les brumes de la peur commencèrent davantage à le frôler autour de ses petites couilles pas plus grosses que des groseilles. Plus la noix tombait, plus elle ralentissait dans sa chute. Un temps lointain dans un vallon finit même par s'immobiliser entièrement. Maintenant il faisait beau. Il faisait même un peu trop beau, comme dans les sortilèges. Une petite fille avec des nattes cueillait des joncs en fredonnant un air de Moravie ancienne. La petite fille n'avait rien sous son tablier et le coquetier de son petit cul sautillait sans un œuf dedans. Tout en chantonnant, elle faisait des petits bonds en se caressant la joue contre le duvet de la tête des ajoncs. La chansonnette disait à peu près « Danse, danse, grand-mère, les jours sont comme avant. N'entends-tu la bergeronnette scier un cercueil toujours blanc ?» Puis la vieille bique sans dents, au fond du puits, ouvrit la bouche. La voix lui tomba dedans, jusqu'au cœur de son ventre qui se mit à enfler, tandis qu'une cloche obscure tintait pour un baptême dans le ciel d'un pays sans nom. Le deuxième texte. Humble destin de Célestin. Une usine d'eau de Javel se dresse un jour dans un paysage de neige des faubourgs. Dans cette usine travaille un vieux type, triste, ombragé d'une casquette, et chargé principalement de rouler jusqu'au cul des camions de livraison des piles de 3 casiers de litres entassés sur un diable, au roulement amorti par de la sciure répandue sur le sol. D'une haute cheminée de tôle, plantée un peu de guingois sur le toit de l'usine, une cheminée en forme de champignon maigre s'élève une fumée jaune relant de chlore de la résine. Après le départ des camions, le vieux Célestin s'assoit sur un casier, il roule un mégot de tabac gris qu'apporte à l'ordinaire dans une feuille de papier gommé. Le dimanche, l'usine est fermée, mais la neige est toujours là. Les dimanches de ce pays-là sont tous des dimanches de janvier. Alors Célestin va se promener sous sa casquette. Il ne pense pas plus loin qu'à des cailloux gelés enfouis sous la neige. Le soir tombe dans sa pensée, le soir tombe en faisant doucement briller les cailloux. Il a envie de boire un grand verre de vin rouge. Ce qui lui donne cette envie-là, c'est surtout comme une vieille odeur de planches mornes éparses à travers les copeaux de son tabac. Il va donc s'asseoir sur une chaise de paille au fond d'un troquet de plâtre, un troquet de plâtre en limon du Valois. La chaise elle aussi miroite humblement dans la pénombre du bistrot. Célestin se souvient encore un peu d'être comme le dernier des Cosaques, le dernier vieux daguet des forêts ancestrales. Autrefois, dans le limon du Valois, nagea la truite aux écailles d'or. N'y a-t-il pas de ces choses obscures, scintillantes, dont se rappelle encore la nuit du sang autour du cœur? Un accord parfait commence à s'établir entre la lumière du soir de neige et le velours un peu rugueux du goût du vin rouge. Il ne manque plus dans l'air que le prisme irisé d'une vapeur de poireaux. Ce serait alors encore une fois le même vieux soir de Villers-Cotterêts, au cœur des forêts de grands hêtres mordorés. Célestin vivrait encore avec sa vieille mère dans la masure des roses trémières, dans l'orient du crépuscule des fougères. Le lendemain, il retourne charrier les casiers dans le courant d'air de la fabrique d'eau de Javel. Il a remis son gros tablier de cuir noir. À l'heure du casse-croûte, il mange un sauret fourré dans un bout de pain frotté à l'oignon. En chargeant leur camion, les camionneurs racontent des plaisanteries boueuses qui parlent du nichon des servantes ou de la difformité des navets. Célestin sort de moins en moins d'un petit point doré qui parfois luit dans le fond de la sciure, une dernière étincelle des clairières et des fontaines aux biches, et la fumée jaune s'élève de la cheminée en direction des soirs roses et gris au milieu de la maigreur des hivers exilés. Les deux orphelins. Deux orphelins, un soir, sont seuls dans une baraque entourée de marécages. De marécages où bientôt il va neiger car la lumière est jaune et l'eau des flaques un peu plus noire que les autres soirs. Toute la journée, ils se sont amusés avec des coquetiers. Ils ont essayé de couper des dents à des fourchettes avec des ciseaux qu'ils ont été dénichés dans la corbeille à ouvrage de leur mère. Mais maintenant, il fait trop sombre pour s'amuser à ces jeux-là et les parents, le matin avant de partir, ont bien pris soin de cacher les allumettes dans un trou du plancher. Les deux orphelins ne savent pas encore qu'ils sont orphelins, ils ne le seront d'ailleurs vraiment jamais. Les parents ne sont encore partis que du matin. Ils sont partis acheter de la farine chez le meunier du village voisin. Ils ont enfilé leurs grosses chaussettes de laine, ils ont pris leurs brouettes et sont partis sur le chemin en faisant un signe de la main aux deux enfants qui, de derrière la fenêtre, les regardaient s'éloigner sous les légères fumées d'un petit matin tremblant. Maintenant, les deux gamins commencent à trouver qu'il fait bien sombre dans la baraque. Même la faïence des assiettes commence à blêmir étrangement, et dehors déjà les étrons de poules ne sont plus que de vagues trognons de chandelles sèches, indistincts de la boue des ornières. Si c'était l'été, ce serait bientôt l'heure du fantôme Coucouraille, le fantôme de la tour poreuse, celui qui apparaît précédé de lointains grondements de tonnerre aquatique et qui foudroie ensuite silencieusement les enfants demeurés seuls dans des baraques verdâtres au milieu des coquelicots taciturnes et des grands champs de blé aux frémissements avares. Mais c'est l'hiver. Le fantôme Coucouraille ne surgira pas du dessous du trèfle et des luzernes, tout recouvert de poussière de foin sec, abominablement silencieux, une méchante lueur verte dans les yeux. C'est plutôt le loup-garou que ce soir il risque de voir apparaître, avec son long museau de lanterne tombé en panne, ses grandes oreilles de lièvre. Et les parents qui ne reviennent pas, le sac dans la brouette plein de farine à galette, les petits nez de tétards s'aplatissent sur la vitre, les yeux de bouton deviennent tout ronds, mais pas de bonnets à l'horizon, pas de blanc bonnet par-dessus les buissons. Heureusement qu'ils n'ont pas peur, que c'est seulement leur tablier bleu fleuri de pâquerettes d'omelettes qui se contentent d'avoir peur pour eux, car les parents ne reviendront pas. Ils ont voulu se servir de leur brouette comme d'une barque pour traverser une mare. La brouette a fait naufrage, ils se sont tout de suite enfoncés dans la tourbe parmi les vieux échos de la cloche du curé. Non, Gaspard, le loup-garou n'en profitera pas pour venir gober les enfants. Sa carriole s'est enlisée à l'ombre d'un calvaire. Simplement, les deux orphelins resteront seuls dans la baraque, à peu près toujours dans le même soir entrecoupé de furtives embellies indécises qui en réalité seront de vastes étés remplis de coquelicots bourdonnants. La vieille poule jaune les adoptera, ils ne grandiront jamais, ils demeureront les deux orphelins dans la baraque au milieu du marais. Voilà ces textes formidables de Christian Bachelin que vous pourrez lire dans le numéro 179 de Décharge. Si on rejoignait à présent notre ami Louis Dubot, poète, ancien éditeur à l'enseigne du Dé Bleu, chroniqueur régulier d'ailleurs sur Décharge et qui nous fait l'honneur aussi, une fois par mois, de généralement nous offrir un petit billet d'humeur. Voyons de quoi il retourne aujourd'hui.
Le prix loin du marketing. Un prix hors saison qui fait tâche et dénote un ton un tantinet provocateur, mais ô combien réjouissant, dans la saison des prix littéraires qui bat son plein et lucratif fonds de commerce, tout en larguant au grand large le moindre souci de littérature. C'est comme dans tant d'autres domaines essentiels, agriculture, emploi, enseignement, culture, etc., la chasse gardée des industriels productivistes de l'édition qui visent la rentabilité du produit sans trop d'égard pour sa qualité. Parmi les produits formatés, les livres, publiés à tire-larigot, les dociles jurés des prix littéraires qui bien souvent émargent au budget comme des firmes de la boulange éditoriale, vont désigner quelques produits qui inonderont jusqu'à Noël le marché et les étals des terminaux de cuisson, à savoir les libraires de la consommation de masse. C'est tous les ans comme ça, rien de bien nouveau sous le ciel du marketing du livre. Et pourtant, le premier prix décerné de façon complètement anonyme le 15 août 2018, comme chaque année depuis 10 ans, attire l'attention de qui s'intéresse encore à la littérature, y trouve sapiens et plaisir et sort de la lecture un peu plus affermi et grandi dans son être. Créé par Gérard Lambert Ullmann, un libraire, comme on dit de quelqu'un qui est philosophe, qui a élevé son activité professionnelle gagne-pain à la dignité d'une profession de foi qui oriente toute une existence. Un libraire qui a tenu boutique à Saint-Nazaire jusqu'à ce que les vents et marées du productivisme éditorial le réduisent à mettre la clé sous le paillasson et le conduisent vers la file d'attente de Pôle emploi. Mais, libraire un jour, libraire toujours. Fort de ses convictions et de son addiction à la littérature, il a créé le prix Loin du marketing, qu'il présente ainsi. Comme son nom l'indique, le prix Loin du marketing est voué à honorer un écrivain dont les éditeurs n'ont pas les moyens de se payer placard en chaîne dans la presse People, attaché de presse aux jolies menottes, cocktail au tam-tam et dîner de connivence, renvoi d'ascenseur et de monte-charge, et donc ont peu de chances de voir leurs livres chroniqués dans les médias, et moins encore d'être invités par les bonimenteurs des radios et télés, pas plus que d'intéresser la plupart des libraires, l'œil scotché sur le compteur des meilleures ventes et contraint de faire du chiffre pour payer le loyer. Le prix Loin du marketing est donc voué à honorer un écrivain qui n'a pas bénéficié des stratégies conçues pour que ça marche et qui ne peut compter que sur la qualité de ses écrits pour qu'on s'y intéresse. Le prix Loin du marketing sera décerné chaque année le 15 août pendant le sommeil des commerciaux. Le prix Loin du marketing est un prix strictement honorifique. Son lauréat sera au mieux gratifié d'une bonne bouffe arrosée à sa convenance s'il s'aventure jusqu'à Saint-Nazaire. Sa seule récompense sera de pouvoir dire « c'est moi qui l'ai mérité ». Pas la peine de commenter davantage ce qui s'annonce aussi clairement. Le 15 août dernier, le 10e prix Loin du marketing a été attribué à Lucien Suel pour l'ensemble de son œuvre. Il succède à des écrivains, auteurs de livres qui honorent et font avancer non seulement la littérature, mais aussi l'intelligence créatrice, comme Lionel Bourg, 2009, Pierre Autin-Grenier, 2010, Alain Glicos, 2011, Françoise Moreau, 2012, Cathy Barrault, 2013, Jacques Josse, 2014, Valérie Rougeau, 2015, Jean-Claude Leroy, 2016, et François Thibault, 2017. Il n'échappera pas à l'œil attentif de qui s'intéresse encore à la littérature que dans cette liste figurent quelques poètes. La poésie étant le creuset premier de toute création littéraire, il est donc logique que ce prix Loin du marketing s'attache à en saluer quelques excellents praticiens. Lucien Suel est poète, mais aussi romancier, chanteur de rock et jardinier, et tout autant logique que les ouvrages de poésie soient superbement ignorés par les zélés promoteurs des produits industriels. Ce qui n'est pas le cas dans quelques pays voisins où les jurés des prix considèrent qu'un prix littéraire doit nécessairement revenir à un littérateur. Par exemple, en 2016 en Allemagne, le prestigieux prix Georges Büchner, l'équivalent à peu près du prix Goncourt chez nous, a été attribué à un poète, Jan Wagner, pour un livre de poèmes. Un peu comme si Valérie Rougeau s'était vue décerner le prix Goncourt pour Pas revoir. Le Goncourt a un poète, faut pas déconner tout de même, s'insurgerait M. Pivot. Et pourtant, Pas revoir, toutes éditions confondues, doit largement dépasser les 20 000 exemplaires vendus, de quoi tout de même interpeller quelque part les directeurs commerciaux des éditeurs industriels. Je leur glisse à tout hasard et pour terminer, une question subsidiaire à l'oreille. Combien parmi les 567 titres de cette rentrée littéraire 2018 vont atteindre un tel chiffre de vente? Je suis prêt à parier que d'ici à peine 6 mois, le pilon et les bacs de papier recyclés vont déborder d'activité. L'auditeur curieux et qui s'intéresse encore à la littérature peut consulter le site de Gérard Lambert-Ullmann, www.lescoudesfranches, en un seul mot et sans accent, .ouvaton.org. Je répète, lescoudesfranches.ouvaton.org.
Un grand merci à Louis Dubos que nous retrouverons dans 4 semaines. Nous arrivons pratiquement au terme de cette édition de La Route Inconnue. Je vais céder la parole à notre ami Jean-Claude Touzeil pour son clin d'œil plein de malice. Et je vous souhaite, quant à moi, de passer une excellente fin de journée à l'écoute des programmes de Radio Rancière, la radio qui rapproche les hommes. La prochaine édition de La Route Inconnue, c'est dans 15 jours.
Bonsoir. Alors, quelques poèmes de Marie-Lise Leroux, poète de Bretagne, de la région de Vannes, qui a été longtemps enseignante au lycée et qui continue d'animer des ateliers d'écriture. En plus de poèmes, elle a aussi écrit des nouvelles. Voilà. Tu ouvres une brèche dans l'épaisseur du monde pour voir glisser le ciel comme une aile sur l'horizon parfait. Et c'est une joie toujours neuve et désirante que cette parole en voyage sur la mer. L'infini n'est jamais si loin qu'entre deux portes. Toi qui rêves de confondre la lumière, pense à la chair miraculeuse des roses, à l'éclair blanc qui traverse la pierre en plein midi. Pense à l'enfance des corps dans la joie de l'air, à tout ce qui brûle d'éclore dans l'espace entrouvert. Un feu s'allume au bord de ta maison, invente un seuil à sa mesure. Le temps travaille à la douceur des choses, contre la dureté de l'heure, la sécheresse coutumière. La parole envahit ses chemins de force et de faiblesse, partout où s'aventure la vie. Sache-le, le cœur perméable se nourrit du temps léger, et l'amertume, entre les parois de l'air, reste la part des anges. Nous aimons toujours pour la première fois, l'œil plein d'un premier soleil à venir. Le réel nous soulève au-dessus des herbes, là où viennent boire les bêtes du cœur des sources. Une coulée d'air nous retient entre deux visages, comme une parole en route vers la mer. Nous aimons toujours pour la première fois. Un galop d'herbes vertes parmi les pailles, tout le pré pris au lasso. Voilà pour Marie-Lise. Comme d'habitude, je vais vous lire un petit poème personnel. Alors, il se trouve que j'ai édité récemment un livre de poèmes qui accompagne des photos d'Yvon Kervignot. Alors, c'est un peu de l'acrobatie à la radio de décrire une photo, mais je vais le faire quand même pour que vous ayez une idée. Donc, la photo représente un homme qui a les bras chargés de pain et qui indique une direction à un autre homme en se servant d'un des pains comme si c'était un bâton. Et curieusement, cette scène m'a fait penser à un haïku d'Issa, que voici. L'arracheur de navets montre le chemin avec un navet. Et ça m'a inspiré ces quelques lignes. Pensez, c'est en pensant à Issa, dans son champ de navets, que le boulanger montre le chemin avec un pain. Le chef d'orchestre avec une baguette, le musicien avec une flûte et le fleuriste avec une couronne. Voilà, au mois prochain, portez-vous bien. Thank you.